paroles d'un Aitachi avec Henri Fourmi.
Chers amis de Radio Lapourdi, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une religieuse canadienne inconnue dont le témoignage a été donné par le lieutenant de vaisseau Charles Millot qui commandait la canonnière Doudard de la Grée sur le Yangtze juste avant la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, sachant que la présence des missions catholiques françaises situées quelquefois à plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des terres était autorisée par le pouvoir dynastique chinois après la guerre des Boxers. Et les marins français avaient pour mission de les visiter régulièrement, accédant à ces missions en remontant des fleuves assez capricieux. Alors je commence cette histoire. L'une des tâches les plus agréables qu'avait à remplir la canonnière de rivière Doudard de la Grée, dans le haut Yangtze, était de visiter périodiquement les missions catholiques. Les bons pères et les bonnes sœurs aimaient beaucoup la canonnière parce que c'était un petit coin de France qui venait à eux. Et puis, nous avions à bord un docteur, un infirmier et une bonne réserve de médicaments qui étaient toujours attendus avec impatience pour soulager bien des misères. Alors, je me permets une réflexion. Ces missions que l'on appelle humanitaires aujourd'hui sont toujours d'actualité avec les navires de la marine, notamment dans les régions sans infrastructures dédiées ou sans personnel de santé résidant sur place en permanence. Je reprends le récit. La mission de Van Chien avait un dispensaire tenu par deux sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. L'une était très âgée et se trouvait là depuis plus de 50 ans, sans avoir jamais songé qu'elle pût avoir quelques droits à revoir son pays. L'autre était toute jeune, 25 ans tout au plus, jolie comme un ange du bon Dieu, sous sa grande cornette blanche, resplendissante de cette sérénité qui émane de ceux qui n'attachent de l'intérêt à leur propre existence que dans la mesure où elle peut être utile à celle de leur prochain. C'était une Canadienne française. Elle n'était en Chine que depuis quelques mois, après un noviciat de plusieurs années à Paris, dans la maison mère de la rue du Bac. Quelle belle définition de la vocation, dirais-je, qui semble si naturelle pour bien des personnes, dont la générosité constante et rayonnante témoigne à l'état pur de ce qu'il y a de plus grand en chaque être humain, le don de soi. Je reprends le récit. Au dispensaire de Van Chien, on soignait tout ce qui se présentait. C'était surtout des fumeurs d'opium, qui arrivaient là, parcheminés, décharnés, à deux doigts de la mort, et que l'on ramenait peu à peu à la vie grâce à un long traitement de désintoxication qui exigeait beaucoup plus de patience que de médicaments. Il y avait aussi de lamentables débris humains, minés par la tuberculose ou la dysenterie, rongés par les ulcères et, occasionnellement, quelques blessés. Je me permets une petite réflexion. La médecine a fait des progrès considérables au XXe siècle. Mais il semble qu'aujourd'hui, c'est la qualité d'humanité, c'est-à-dire le respect inconditionnel de la personne, qui demeure le critère le plus essentiel dans la relation patient-soignant, quelle que soit la souffrance endurée. Loin de regarder le patient comme un numéro de dossier, elle me regardait comme une personne, pour reprendre la formule de Bernadette Soubirous, après sa rencontre avec Notre-Dame de Lourdes. Cette dimension se révèle être un atout incontournable dans la volonté de guérir. Je reprends le récit. Les bonnes sœurs me faisaient les honneurs de leur domaine, quelques dortoirs installés dans une vieille maison chinoise, m'exposant à chaque patient la nature de la maladie, les espoirs de guérison. Dans un coin, sur son lit de sangle, était allongé un malade exsangue, verdâtre, dont les plis de drap dessinaient un corps visiblement incomplet. Il lui manquait une jambe. « Celui-là, dit la petite sœur, canadienne, a été amputé hier. »« Et par qui, ma sœur ?»« Par moi, répondit-elle en rougissant imperceptiblement. »« Mais, ma sœur, vous connaissez la chirurgie ?»« Oh non, monsieur le commandant. »« Mais le médecin chinois était absent. »« J'ai vu que la gangrène se mettait dans la blessure, qu'on ne pouvait pas attendre, que cet homme allait mourir. »« Alors, j'ai demandé au bon Dieu de me donner le courage de lui couper la jambe. »« Et le bon Dieu m'a exaucé. »« Et je crois bien que ce pauvre malheureux ne mourra pas. » Il est infiniment probable que le pauvre malheureux n'est pas mort, tout au moins de la blessure qui s'était faite à la jambe. Mon médecin l'a examiné et m'a confié que si l'opération n'avait certes pas été exécutée selon toutes les règles de l'art, le danger de gangrène était définitivement écarté et il n'y avait plus de raison pour que le pauvre diable passât de vie à trépas. Je me permets cette réflexion encore. Je ne vous recommande pas de vous lancer dans des opérations de ce type, surtout si vous pouvez joindre un service d'urgence. Mais les circonstances sont fréquentes d'avoir à intervenir, seul ou à plusieurs, dans une situation qui vous y oblige, que ce soit dans la maison, à l'école, au travail ou dans la rue, voire pendant vos loisirs en forêt, montagne ou en mer. À ce titre, il me paraît utile pour chacun d'entre nous d'apprendre dès que possible ce que l'on appelle les gestes qui sauvent. Ils sont à présent enseignés dès le plus jeune âge, soit en milieu scolaire, soit professionnel et dans les associations, sachant que parfois, chaque seconde compte. J'arrive au terme de ce témoignage. Ce qui prouve que, avec l'aide du bon Dieu, les petites sœurs, canadiennes ou autres, qui se sont données pour mission de soigner les malades, peuvent faire des miracles. Là encore, je réagis. Peut-on encore croire aux miracles ? Cette question doit être posée aux millions de personnes, souffrantes et accompagnantes, qui viennent en pèlerinage, à Lourdes et dans d'autres sanctuaires, notamment Mario, de par le monde. Les scientifiques les plus sérieux expriment avec humilité leur incapacité à expliquer ces phénomènes. L'Église, très prudente, n'authentifie les guérisons en miracle qu'exceptionnellement. Le miracle se manifeste cependant dans la foi de ces personnes, dans l'espérance qui les porte, la charité qui se déploie et la joie qu'elle rayonne au retour, quel que soit le résultat visible ou sensible de leur voyage. Ce témoignage du commandant de la canonnière se conclut par ces mots. Je voudrais que cette histoire tombât sous les yeux des mauvais garçons, s'il en reste, qui estiment que les bonnes sœurs ne sont pas à leur place dans les hôpitaux. Fin du récit. Malheureusement, il reste des mauvais garçons par toute la terre, et il y en aura toujours, car le bon grain est livré, divise le cœur de chacun. Toutefois, les multiples tentatives historiques d'exclure la religion chrétienne de la mission du soin de son prochain, dans les hôpitaux ou ailleurs, n'ont pas encore connu un succès durable. Pourquoi ? Faut-il admettre que la vocation du soin est ontologiquement semblable à celle du Christ en prière permanente avec son Père et notre Père ? De fait, dans Gaudium et Spes, lors de Vatican II, l'Église s'est prononcée dans ce sens. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Ainsi, pour chacun de nous, il y a un appel particulier, soit pour aider, soit pour être aidé, qu'il importe d'accueillir dans la louange. Je voici une prière qui a été écrite pour le dimanche des malades. Seigneur Jésus, la lumière de ton amour a été déposée en moi au jour de mon baptême. J'en suis émerveillé, mais je la sais petite, fragile, tremblante en moi. Et pourtant forte, puisqu'elle vient de toi. Donne-moi de la laisser briller, permets que d'autres viennent s'y réchauffer, que par elle, aux heures sombres, ils trouvent un chemin. Et mets sur ma route des compagnons dont la lumière me réchauffera et me réconfortera si besoin. Fais que jamais ta lumière ne s'éteigne en moi. Amen. Le 11 février prochain, date de la commémoration de la première apparition de la Vierge à Lourdes, sera célébrée la journée mondiale de prière pour les malades. Que cette journée réunisse d'un même cœur toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernées par la souffrance, la leur ou celle du prochain qui appelle à l'aide. Pour conclure, je vous invite à lire le message du pape Léon XIV pour la 34e journée mondiale du malade, le 11 février 2026, qui sera célébrée à Chiclayo, au Pérou. La compassion du Samaritain, aimer en portant la douleur de l'autre. Douce mère, ne t'éloigne pas, ne détourne pas ton regard de moi. Viens avec moi partout et ne me laisse jamais seul. Puisque tu me protèges autant comme une véritable mère, fais que le Père, le Fils et le Saint-Esprit me bénissent. Merci de votre attention, à la prochaine fois.